de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour partir sur la piste des grands singes aujourd'hui. Chimpanzés, gorilles, orang-outans nous fascinent et pour cause. Comme nous, ils ressentent et expriment des émotions, communiquent, sont dotés de conscience. Certains utilisent même des outils et savent se soigner. La génétique nous a appris que nous partageons avec eux la plupart de nos gènes. Mais que savons-nous vraiment sur nos plus proches parents? Pour le découvrir, une exposition à Paris, au Muséum National d'Histoire Naturelle, nous plonge en immersion dans leur quotidien, dans les forêts tropicales d'Afrique et d'Asie, où ils vivent, survivent encore, mais pour combien de temps? Autour de la question comment vivent les grands singes, nous partons sur leurs traces avec nos invités, la primatologue Sabrina Krief et l'ethno-écologue Serge Bahuchet. Bienvenue sur la piste des grands singes. Quand les chimpanzés vous observent, Sabrina Krief, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour nous faire partager cette assez fascinante intimité avec les chimpanzés que vous suivez depuis de nombreuses années dans le parc de Kibale en Ouganda. Vous êtes maître de conférence au muséum, primatologue de terrain. Vous avez notamment découvert les étonnantes pratiques d'automédication des chimpanzés, on y reviendra peut-être. Mais c'est au fond cette connaissance, cette proximité aussi que vous avez pu développer avec les grands singes que vous voulez nous faire ressentir dans cette exposition immersive au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, sur la piste des grands singes. On y est effectivement, on vous y suit.
Oui, l'idée c'est de suivre les grands singes et en même temps les chercheurs qui travaillent sur ces grands singes. Donc on est trois équipes à avoir travaillé sur ce projet. L'équipe de chez Limassi qui travaille sur les gorilles de l'Ouest, donc en République centrafricaine et aussi au Congo. L'équipe de Marc Ancrenas qui travaille à Bornéo sur les orangs-outans de Bornéo. Et puis donc notre équipe qui travaille en Ouganda, dans le parc national de Kibale, sur les chimpanzés.
Bonjour Serge Bahuchet.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors vous êtes ethno-écologue, directeur du laboratoire d'éco-anthropologie et d'ethnobiologie du muséum. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur les pygmées, sur leur intégration dans le système agroforestier. A priori, on a envie de dire que ce sont plutôt les hommes que les grands singes qui vous intéressent. Mais si vous êtes avec Sabrina, commissaire de cette exposition sur les grands singes, c'est précisément parce que dans les forêts où ils vivent, il y a aussi des hommes, mais que la protection des uns, je crois, ne va pas sans celle des autres.
Exactement. Donc nous voulions montrer que dans cet écosystème complexe, très riche en biodiversité, parmi la biodiversité, il y a une grande diversité culturelle. Il y a beaucoup d'hommes qui vivent dans la forêt depuis des milliers d'années et qui ont vécu dans la forêt en interaction, éventuellement en les tuant un petit peu, mais en interaction avec les grands singes depuis aussi longtemps, des milliers d'années, et que les destructions qu'on observe aujourd'hui ne sont pas dues à l'histoire de ces hommes.
Oui, ne sont pas dues à l'histoire de ces hommes, mais elles sont dues peut-être à l'histoire de l'humanité tout entière, et donc elles concernent au fond toute l'humanité.
Elles concernent toute l'humanité, parce qu'une grande partie des gens qui ont une responsabilité dans la destruction des forêts, et par conséquent la destruction des grands singes, c'est nous.
Question complexe donc que nous allons aborder ensemble autour de la question pourquoi les grands singes. On commence par partir sur leur piste, si vous le voulez bien, dans cette exposition sur la piste des grands singes au Muséum d'Histoire Naturelle. Reportage immersif d'Alice Milo, guidé par Émilie Robert, une des conceptrices de l'exposition.
Alors là, on est à l'entrée de la forêt tropicale. Donc nous pénétrons dans le territoire des grands singes, au cœur de l'exposition. Donc on a vraiment conçu cette forêt tropicale comme un décor qui enveloppe le visiteur. On a une ambiance sonore, des décors vraiment qui montent très très haut pour que même qui passent au-dessus de la tête du visiteur. On voulait vraiment que le visiteur se sente immergé dans la forêt tropicale pour découvrir les grands singes, puisque le cœur de l'exposition, son propos principal, c'est vraiment de partir à la rencontre des grands singes dans leur environnement. D'ailleurs, il y en a qui sont cachés dans ce décor. On découvre dans un virage quelques gorilles, des chimpanzés, des orangs-outans suspendus qui sont cachés derrière la végétation. C'est une découverte à chaque instant.
Alors là, il y a une première fenêtre.
avec une scène.
Voilà, donc ici on est face à un petit groupe de gorilles. On peut voir donc un mâle adulte, reconnaissable à son dos argenté de couleur, donc le pelage est de couleur grise, qui est accompagné d'une femelle et de son petit.
Et alors là, on arrive devant une autre fenêtre sur la forêt, comme si on a le sentiment que d'un coup les feuilles se sont écartées pour nous laisser une vision incroyable.
Voilà, et donc on découvre suspendu à une branche un superbe mâle orang-outan qui est un spécimen qui a été naturalisé spécialement pour l'exposition. Donc les visiteurs seront les premiers à le découvrir.
Il est orange.
Voilà, c'est vrai que sa couleur détonne un peu par rapport aux autres. Et puis c'est le plus arboricole, donc c'est un véritable acrobate dans les arbres. Alors là, on découvre dans une petite alcôve un orang-outan qui s'apprête à s'endormir, puisque les grands singes ont une particularité, c'est qu'ils dorment dans des nids. Ce ne sont pas du tout les mêmes nids que les oiseaux, puisque les oiseaux, eux, vont construire des nids pour pondre leurs œufs au moment de la reproduction. Les grands singes, eux, font un nouveau nid chaque soir. Donc chaque soir, quand ils ont envie d'aller se coucher, ils fabriquent un nid, donc en pliant des branches, en faisant des coussins de feuilles, et ils vont passer la nuit ici. Puis, au matin, ils vont partir et aller un peu plus loin, et ils ne redormiront quasiment jamais dans un nid qui a déjà servi. Ils vont toujours en refaire un nouveau.
Dans le nid des orang-outans, avec Élodie Robert, hein, une des conceptrices de l'exposition du muséum. Il y a aussi le nid des chimpanzés, c'est une des découvertes, notamment il y en a plein qu'on peut faire dans cette exposition. Sabrina Krief, les grands singes, ils refont leur nid tous les soirs.
Tous les soirs un nouveau nid, et puis un nid par individu, sauf les mères qui dorment avec leur petit qui n'est pas encore sevré. C'est aussi un moyen pour les chercheurs de pouvoir les recenser. Donc on compte les nids de part et d'autre de chemins qui sont tracés dans la forêt, et c'est de cette façon-là qu'on peut se rendre compte du nombre d'individus et aussi justement de leur disparition petit à petit.
Et ces nids, ils sont tous les grands singes au fond, font leur nid, parce qu'on a parlé des orang-outans, des gorilles, des chimpanzés.
Oui, des bonobos.
Des bonobos.
En fait, quand on parle des grands singes, il y a 6 espèces de grands singes, 2 espèces de gorilles, les gorilles de l'ouest et les gorilles de l'est, les chimpanzés, les bonobos et les orang-outans de Bornéo et Sumatra.
Donc ça, les orang-outans c'est en Asie et les autres grands singes sont en Afrique.
Exactement. Et tous construisent des nids à hauteur variable. Donc évidemment, les gros gorilles de quelques 200 kilos préfèrent dormir au sol, c'est moins risqué. Par contre, les autres individus peuvent construire leur nid à différentes hauteurs dans les arbres.
C'est pour se protéger des parasites, des...
Oui, et aussi donc en fonction des éventuels prédateurs, les orang-outans vont plutôt avoir tendance à construire leur nid haut dans la canopée. Du coup, on pourra faire des recensements par hélicoptère ou par avion. Donc ça, c'est un des... le travail que mène Marc Encrenaz. Par contre, en Afrique, chimpanzés et gorilles construisent des nids beaucoup plus bas. Et donc, pour nous, le moyen de pouvoir les compter, c'est vraiment de parcourir la forêt et de compter ces nids à partir du sol.
Sacré travail de parcourir la forêt pour compter les nids. On parle donc des grands singes, hein, autour de la question pourquoi les grands singes et comment vivent-ils. Leur particularité, on dit grands singes, c'est pas seulement lié à leur taille, c'est lié à leur capacité.
Voilà, donc il y a une question de taille malgré tout. Le fait qu'il n'ait pas de queue, donc parmi les 300 espèces de primates, hein, la plupart des primates ont des queues, certains des queues préhensiles comme en Amérique. Par contre, donc il n'y a pas de grands singes en Amérique. Et tous les grands singes donc partagent aussi le fait d'avoir un gros cerveau par rapport à leur taille corporelle et des capacités cognitives, donc une intelligence particulière qui leur confère une bonne mémoire, une capacité de communication assez impressionnante et aussi...
Ils communiquent, hein, les voilà, singes, les grands singes entre eux.
L'usage d'outils aussi, de transmission. En fait, il y a une longue période dont on parlait d'apprentissage, de vie entre, de proximité entre la mère et son jeune, pendant plusieurs années, jusqu'à 8 ans chez l'orang-outan. Et c'est le moment où des comportements peuvent être appris par les plus jeunes.
Voilà donc, pour les grands singes qui... Alors, l'homme ne descend pas, on va continuer dans les préjugés et les idées reçues qu'on a, l'homme ne descend pas du singe, on est bien d'accord.
On est d'accord, ce sont nos plus proches parents.
Tout de même.
Donc au niveau évolutif, d'ailleurs, on explique dans l'exposition les premières découvertes qui ont été faites. Et aussi, donc, on peut voir des fossiles de grands singes, des fossiles des premiers humains. Donc on retrace cette histoire évolutive de notre parenté.
C'est ça, ce sont nos plus proches cousins parce qu'on a un ancêtre commun, mais tous les grands singes et tous les humains ont un ancêtre commun il y a très longtemps, mais ce sont deux branches séparées.
Exactement.
Vous confirmez,
Serge? Je confirme.
Et les grands singes, ils ont des capacités cognitives qui sont tout de même assez proches de nous. Ce sont nos plus proches parents. Entre ces différents grands singes, donc les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les capacités sont différentes?
Alors en fait, ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition aussi, c'est que ces comportements peuvent être révélés en milieu naturel. On a souvent cherché en laboratoire à essayer de comparer l'homme au grand singe et à leur faire faire des tâches qui étaient des tâches faciles à comprendre pour un humain, mais pas forcément pour un chimpanzé ou un orang-outan qu'on venait de prélever de sa forêt.
Oui, donc difficile de savoir s'il était évolué ou pas, ou s'il faisait ce qu'on lui demandait, puisqu'on lui demandait des choses qui n'étaient pas les siennes.
Voilà, et donc en milieu naturel, on observe des choses tout à fait étonnantes, donc par exemple l'utilisation d'outils par les orang-outans, par les chimpanzés, par les bonobos, beaucoup moins par les gorilles, mais quand on les place par contre dans des conditions assez similaires et qu'on leur demande des tâches, ils sont tous capables d'avoir des comportements avec usage d'outils, transmission de connaissances. En fait, les chimpanzés, par exemple, quand ils cassent les noix, ont pour objectif d'atteindre cette ressource alimentaire très riche en lipides qui est à l'intérieur de la noix. Et donc certains ont découvert qu'en cassant avec des noix, ils réussissent à avoir la graine à l'intérieur. D'autres utilisent des morceaux de bois. Et certains n'en font pas du tout usage et ne consomment pas ces noix.
Tout dépend des communautés.
Voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qui fait ce que les primatologues appellent la culture. Serge réagira peut-être avec un point de vue d'anthropologue. Mais en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est transmis des adultes vers les jeunes, de génération en génération. Il y a un apprentissage. C'est normé, c'est-à-dire que les individus d'un même groupe partagent cette pratique. Et quand on fait quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres pour aller à une autre communauté, on n'a pas forcément les mêmes pratiques. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant et qui motive à continuer les recherches sur différentes communautés, justement pour montrer cette richesse incroyable des pratiques des grands singes.
Cette pratique ou cette culture dont des grands singes. Autour de la question, pourquoi partir sur la piste des grands singes sur RFI? On écoute Monkey Man. Toots and the Metals, version reggae bien sûr.
We'll be right back.
Toots and the Metals sur RFI. Nous sommes en compagnie de la primatologue Sabrina Krief et de l'éco-anthropologue Serge Bahuchet, commissaire de l'exposition sur la piste des grands singes au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Autour de la question pourquoi les grands singes sont nos plus proches parents et pourquoi l'homme ne descend pas du singe. Écoutez l'éclairage du préhistorien Jean-Luc Rieux que nous avions reçu ici même à propos de l'homme de Néandertal.
L'homme est un grand singe, on a du mal à l'accepter, mais on est des primates et on est effectivement... Souvent, quand on parlait justement de Néandertal qui avait le dos recourbé, on l'imagine simiesque justement. Ça ne serait que l'homme complètement abouti, Homo sapiens, qui se distinguerait du singe. Et on le sait pertinemment, la bipédie, elle est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pense. Hein. Même le fameux Toumaï, qui a daté de 7 millions d'années, d'après la morphologie de son crâne et de son trou occipital, avait déjà une forme de bipédie. Hein. Et au niveau génétique, on sait que c'est à peu près la barrière de séparation des chimpanzés avec les groupes de Homo. Nos ancêtres directs, en tout cas, marchaient debout sur deux pieds. Nous sommes leurs descendants et donc on est des singes bipèdes, à la différence des singes qu'on pourrait appeler quadrumanes, hein, les chimpanzés et les gorilles. On est hommes par les pieds.
On est homme par les pieds. Est-ce que ça vous va comme définition, Serge Bahuchet ?
Bon, c'est une partie de la définition. Le fait est que les hommes marchent beaucoup. Et ce qui est un des trucs les plus frappants quand on commence à vivre avec eux dans la forêt d'Afrique, c'est qu'on marche beaucoup et quelqu'un de taille pas ridicule comme moi se prend la tête dans les branches tout le temps.
Et quand vous marchez avec les pygmées, il y a une différence de taille, oui.
Oui, moi je trébuche sur les branches et autres, ça les fait beaucoup rire.
Et quand vous entendez Sabrina Krief parler de culture pour les communautés de singes, hein, qui ne fabriquent pas les mêmes outils, qui n'utilisent pas en tout cas les mêmes outils d'un endroit à l'autre, on peut parler de culture pour les grands singes ?
Il y a un débat dans la communauté des anthropologues à ce propos. Moi je fais partie de ceux qui considèrent que oui, on peut. Les arguments des primatologues me convainquent, qui sont basés sur le fait qu'il n'y a pas les mêmes gestes techniques d'une communauté à l'autre et qu'il y a une transmission de ces gestes à l'intérieur de la communauté.
Donc on peut parler de culture animale, hein, de culture chez les grands singes.
Dans ce cas-là, oui, ça va distinguer des oiseaux qui peuvent faire des choses compliquées, mais ils le font tous. Et là, chez les chimpanzés en particulier, il y a vraiment des différences régionales. Donc moi, j'accepte ça. D'autres collègues considèrent que c'est exagéré.
Il y a des apprentissages, donc il y a des transmissions chez les grands singes, chez les chimpanzés notamment que vous avez étudié. Sabrina Krief, vous avez découvert qu'ils étaient aussi capables de se soigner, ou en tout cas de faire la différence entre différentes plantes, qu'ils absorbent dans certaines conditions pour se soigner, effectivement.
Oui, alors peut-être pour rebondir sur la remarque de Serge, en fait il y a une grosse différence entre grands singes et humains qui est... justement au travers de l'apprentissage. C'est souvent, et c'est pratiquement toujours, un apprentissage passif, par observation, de celui qui apprend vers celui qui fait le geste technique ou qui consomme des plantes.
Apprentissage passif, ça veut dire qu'il n'y a pas de professeur et d'élève, ça veut dire qu'on regarde et qu'on copie.
C'est-à-dire que, par exemple, même si un chimpanzé va sélectionner une plante qui semble avoir une activité médicinale pour la consommer, cette mère, par exemple, ne va jamais donner à son petit et ne va jamais montrer à son petit une plante qui serait bonne à consommer. Alors Christophe Busch a observé quelques cas d'apprentissage actif où par exemple la mère replaçait correctement une noix ou prenait la main de son petit pour lui apprendre
à casser une noix.
Voilà. Mais la plupart du temps c'est vraiment un apprentissage passif et il y a très peu de progression dans la tâche. C'est-à-dire qu'ils vont casser des noix d'une façon et ça va rester comme ça pendant des générations et des générations. En fait il y a une très forte contrainte sur les grands singes parce que tous les jours, en fait, ils ont besoin de chercher à manger. Donc, il y a assez peu de temps qui est consacré à autre chose qu'à la recherche de l'alimentation. Et c'est vrai que c'est ce qui guide l'alimentation et les interactions sociales sont vraiment ce qui guide la vie d'un chimpanzé.
Oui, c'est une question de vie et de survie et il n'y a pas beaucoup de temps pour la culture ici.
Exactement. D'ailleurs, on s'en rend compte, les occasions où les chimpanzés chassent ou jouent de façon longue, c'est vraiment quand ils ont l'estomac rempli. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont consommé beaucoup de fruits, etc., ils vont se donner du temps pour ajouter un petit complément, comme par exemple la chasse de petits mammifères, de colobes. Mais c'est pas parce qu'ils ont faim qu'ils chassent. Généralement, c'est ce qui permet de compléter le régime alimentaire.
C'est en plus. Autour de la question, pourquoi les grands singes ? On continue l'exploration, la découverte sur la piste des grands singes dans cette exposition du Muséum d'Histoire Naturelle. Suite dans 3 minutes, juste après le flash d'info. On se retrouve dans la forêt où vivent encore, mais pour combien de temps, des grands singes et des hommes. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie en compagnie de la primatologue Sabrina Krief et de l'éco-anthropologue Serge Bahuchet, commissaire de l'exposition sur la piste des grands singes au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Autour de la question pourquoi partir sur la piste des grands singes, on écoute une de vos réponses, Sabrina Krief.
On décrit des comportements assez étonnants chez les chimpanzés en particulier. Certains sont liés à l'utilisation d'outils, donc des choses matérielles pour se nourrir, mais d'autres complètement symboliques a priori et plus du tout attaché à des aspects matériels. C'est le cas de la danse de la pluie qui est pratiquée dans certains groupes de chimpanzés mais pas tous, donc qui se transmet de génération en génération. Et ça c'est absolument fabuleux. En fait, les grands singes se dressent, se hérissent, se mettent en position bipède et puis effectuent une sorte de danse lente, magnifique, entre les arbres au moment de l'orage.
La danse de la pluie des chimpanzés qui se transmet de génération en génération.
Oui, en fait, sur le terrain où j'ai travaillé dans le parc de Kibale,
en Ouganda,
donc il y a déjà un suivi de plus de 20 ans sur ces chimpanzés. Et donc, on peut petit à petit découvrir si ce sont des transmissions et si effectivement ça se poursuit au sein de la communauté.
Et oui, c'est parce que vous, chercheurs, vous avez déjà passé plus de 20 ans à suivre les mêmes communautés de chimpanzés et puis ensuite des différentes pour comparer, c'est ça?
Voilà, donc les études sur les grands singes et sur les chimpanzés ont commencé dans les années 60 avec Jane Goodall, bien sûr. Et donc, on a maintenant un peu de recul pour pouvoir mieux décrire ces générations de grands singes. Un autre aspect important, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut longtemps avant qu'ils acceptent notre présence et notre confiance et qu'on n'ait plus la curiosité qu'on entendait au tout début de cette émission.
Oui, parce
émission.
Qu'au début, c'est eux qui sont curieux ou qui ont peur.
Voilà,
qui...
donc là, en fait, c'était au tout début de l'approche et du phénomène qu'on essaye d'engendrer, qui est l'habituation. Donc, l'objectif, c'est de limiter cette crainte et cette fuite que, naturellement, les chimpanzés ont vis-à-vis des observateurs, parce qu'ils ont été beaucoup chassés, parce qu'ils ont eu des prédateurs. Et donc, ça peut prendre 10 à 15 ans. Donc, il faut...
Rien pour habituer les chimpanzés à votre présence, pour qu'ils agissent normalement quand vous êtes là, en
voilà,
fait.
Pour qu'on devienne neutre, pour qu'ils ne fassent plus attention à nous et pour qu'on puisse les suivre à 5 ou 10 mètres de distance sans contact physique pour éviter de leur transmettre des maladies, pour éviter qu'il y ait des contacts agressifs aussi, et pour pouvoir donc observer au plus près leur comportement tous les jours.
Alors, et puis un élément important, c'est que cette habituation a comme conséquence qu'ils reconnaissent les individus personnellement. Donc chaque
individualité, chercheur reconnaît chaque individu chimpanzé. C'est peut-être même vice-versa d'ailleurs, ça on ne sait pas.
Vice-versa, a priori.
Vice-versa, oui, c'est ça. Et alors, vous les observez pour étudier leur comportement, effectivement les connaître, enfin voilà, pouvoir savoir ce qu'ils font, et on fait des découvertes, enfin, les primatologues comme vous font des découvertes sans arrêt, mais vous les observez aussi parce que les chimpanzés en particulier, les grands singes en général, ont un rôle fondamental aussi dans la forêt, pour la forêt.
Ils ont un rôle clé pour l'écosystème, on en parle vraiment ça dans l'exposition, donc dans la partie qui traite de l'alimentation, puisque tous les grands singes sont frugivores. Ils mangent aussi des feuilles, des tiges.
Ils ne mangent pas que des bananes. Hein.
Non, ils ne mangent pas de bananes.
Ils ne mangent pas de bananes.
Puisque quand ils en mangent, c'est qu'ils sortent de la forêt pour aller les piller chez les villageois. Et donc, ils ingèrent des fruits avec la pulpe. Donc, il y a des graines qu'ils vont aller disséminer à plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres de l'endroit où ils ont consommé le fruit. Et donc, permettent la germination. Donc, en fait, ils entretiennent la diversité de la forêt, puisque, par exemple, les chimpanzés que j'ai étudiés à Kibale, on consomme jusqu'à 300 aliments différents. Donc, ils ont un vrai rôle dans cet écosystème. Surtout que certaines de ces graines sont vraiment grosses et ne peuvent être consommées que par des grands mammifères ou vertébrés. Et d'autres ont besoin de ce passage digestif pour germer. Donc, ils jouent un rôle vraiment clé dans l'écosystème. Ils sont les indicateurs aussi de l'état de ces forêts et peuvent permettre leur maintien.
Donc, ça va vraiment dans les deux sens, cette question aussi de la préservation de l'habitat. C'est-à-dire, les grands singes ont besoin qu'on préserve leur habitat, donc la forêt, et eux-mêmes font partie de cette préservation.
Ils y contribuent. La bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai une de mes doctorantes Sarah Bortolamiol, qui vient de soutenir sa thèse, qui est géographe, qui a essayé de cartographier les endroits où on rencontrait le plus souvent les chimpanzés dans le parc de Kibale, donc au nord où l'on se trouve. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'évitent pas les zones qui ont été dégradées récemment par l'exploitation forestière. Ils n'évitent pas les lisières non plus. Et en fait, cette forêt en régénération peut être un habitat tout à fait favorable pour les grands singes. Donc c'est vraiment important de ne pas concentrer nos efforts uniquement sur les forêts dites primaires qui ont été peu détruites, mais aussi de prendre en compte ces petits fragments de forêt qui peuvent avoir été perturbés et de maintenir leur connexion de façon à ce qu'on puisse toujours avoir des échanges de gènes et d'individus et de gènes pour maintenir aussi cette diversité génétique qui est nécessaire à la survie d'une population.
Mais dans ces lisières de forêt justement, est-ce que les singes que vous suivez en Ouganda, ils sont en contact aussi avec les populations? Parce qu'il y a des hommes qui vivent dans ces lisières de forêt
oui,
aussi,
alors,
évidemment.
Dans la zone où on travaille en Ouganda, il y a une très forte densité de population avec 300 habitants au kilomètre carré autour du parc. Les chimpanzés sortent du parc pour aller parfois piller les plantations des villageois et les villageois vont parfois dans la forêt, même si c'est interdit, puisqu'on est dans un parc national, poser parfois des pièges pour récolter du petit gibier. Et donc les chimpanzés peuvent être victimes de ces pièges. Et un autre aspect sur lequel on travaille, c'est la transmission de maladies. Donc évidemment, aussi à cause de notre proximité physiologique, humains et grands singes sont sujets à attraper les mêmes maladies, à avoir les mêmes agents pathogènes.
D'où l'importance de comprendre, de connaître, mais aussi de sensibiliser sur place les populations pour qu'elles sachent quoi faire, comment faire, parce qu'au fond, ils vivent à côté des grands singes, mais pas tellement avec.
Exactement. Donc, on a mis en place une nouvelle station dans cette zone à Sébitoli et on a pour objectif donc à la fois de développer la recherche et aussi d'avoir un centre de sensibilisation puisque jusqu'à présent, les humains n'ont pas le droit de pénétrer dans ce parc, ne connaissent pas les grands singes, ne les voient que quand ils sortent pour venir piller. Et donc, ce qu'on essaye de mettre en place avec l'Uganda Wildlife Authority, ce serait des visites pour les enfants des villages, pour les villageois, pour leur faire découvrir cette richesse extraordinaire.
Ordinaire, à côté de laquelle ils habitent.
Voilà, mais... que nous, chercheurs ou touristes occidentaux, on a la chance de découvrir. Et ça, c'est très important qu'on le partage et qu'on fasse cette reconnexion entre la nature, l'environnement proche, pour donner envie de la préserver. Parce que, enfin, il n'y a aucun, sinon, argument pour qu'ils aient envie de protéger cette forêt.
Autour de la question, pourquoi partir sur la piste des grands singes, Sabrina Krief? On va aller avec vous en Ouganda, puisque vous avez même réussi à entraîner une de nos reporters, Alice Milo, sur la trace des chimpanzés dans le parc de Kibale en Ouganda. Écoutez un extrait du reportage qu'elle y a réalisé à vos côtés. Elle vous suit.
Ça y est, on commence à s'aventurer sur les fameux chemins. Donc on a accompagné des assistants qui sont munis de machettes, c'est ça?
Ce qu'on appelle les pangas ici. Donc ce sont des machettes qui permettent de progresser dans la forêt. On essaye de couper le moins possible, bien sûr. Mais souvent, c'est tout à fait indispensable pour pouvoir rentrer dans des zones qui sont très denses en végétaux. Bah, Kibale est une zone très vallonnée. Et donc, au fond des vallées, il y a beaucoup de marécages. Et les bottes sont indispensables, surtout quand les éléphants ont décidé d'arpenter les marécages. Et donc, il y a des gros trous d'eau. Il y a un nid là, déjà. Donc à partir de maintenant, en fait, on essaye de plus parler pour pouvoir entendre au cas où les chimpanzés vocalisent. Puisque à partir du moment où on rentre dans la forêt, ils peuvent être présents même en bordure. Et alors là, il faut commencer à marcher doucement, ne pas faire craquer les branches. Et puis bah, éviter de parler pour avoir la chance de les voir.
Là, vous avez dégainé les jumelles, hein, littéralement. Qu'est-ce que vous avez vu au loin?
Une branche qui ployait, a priori sous le poids d'un animal. Et vu la grosse branche que c'était, ça fait plutôt penser à un chimpanzé qu'à un petit singe. En fait, il est arrivé plusieurs fois qu'on ait l'impression que les chimpanzés n'étaient pas là et qu'on les voit en train de nous observer eux-mêmes. Donc en fait, ils se dissimulent derrière les feuillages. Là, s'il y en a un qui montre le bout de son nez, ça va être quoi l'objectif?
Bah, ça va être de l'identifier, de l'observer, de voir ce qu'il fait, bien sûr. Ils sont là, là-haut. Là, ils viennent nous dire, l'assistant vient de les voir, donc ils sont là. À bout du corps, ça y est, tiens, je viens de le voir.
Bah, ça bouge, hop, tu vois ça.
On voit sa tête, on voit sa tête. Alors, on va essayer d'identifier l'individu. Donc là, c'est sûr que c'est une femelle, sûrement accompagnée d'un petit.
Donc là, elle est à combien, là?
80 mètres, à peu près, 60, 80 mètres. Est-ce qu'on va essayer de... ses membres? Est-ce qu'elle a les deux pieds? Est-ce qu'elle a les deux mains? Est-ce qu'elle a ses deux oreilles? Est-ce qu'elle est plutôt claire? Est-ce qu'elle a beaucoup de poils? Est-ce que ses poils sont noirs, sont plutôt bruns dans le dos? Et tous les signes qui peuvent nous permettre de l'identifier. Ronald vient d'identifier, il s'était un peu écarté de nous. Et il dit que c'est Coutou, donc on va pouvoir s'approcher un peu, on va bouger un petit peu.
Moment assez magique, j'imagine, Sabrina Kef, recueillie donc par Alice Milo, c'est en 2009, je crois, dans le parc de Kibale, en Ouganda, avec cette femelle Coutou.
Oui, c'était les tout débuts de l'habituation. On entend donc mon mari, Jean-Michel, avec lequel je travaille depuis 18 ans sur les
photographes,
chimpanzés.
Hein, voilà, qui a fait des superbes photos de chimpanzés.
Qui sont d'ailleurs sur les grilles du jardin de l'école de botanique,
du jardin des plantes.
Au muséum aujourd'hui. Et donc Coutou, en fait, c'était une des vieilles femelles, la première qui nous a acceptées, qui s'appelle Coutou parce qu'en Rutoro, donc la langue locale, Coutou signifie oreille, et il lui manquait l'oreille gauche parce que Coutou, en fait, est morte cet été. Voilà, donc, mais en tout cas...
C'est la première femelle qui vous a permis approcher, enfin, qui vous a laissé approcher le groupe.
C'est la première qui n'a pas fui quand on est arrivé et qui a mis en confiance son enfant, qui s'appelle Kimchi. Et aujourd'hui, donc, Kimchi, qui est orphelin, a malgré tout survécu parce qu'il était suffisamment grand pour pouvoir vivre seul. Et bah, c'est elle, en fait, et merci de ce bel hommage, qui nous a permis vraiment de gagner la confiance des autres chimpanzés. Parce qu'en fait, ils vivent en système fission-fusion. Ils sont jamais tous ensemble.
Fission-fusion.
Ouais. Donc, ils se dissocient en petits sous-groupes. Tous les individus d'une même communauté se tolèrent, se connaissent, mais ne vivent pas forcément ensemble. Donc, il y a des petits groupes labiles qui se forment. Quand il y a beaucoup de fruits, ils vont se rejoindre. Quand il y a une femelle en oestrus, donc qui est prête à accepter l'accouplement, les mâles vont arriver. Et donc, au gré des saisons et des moments, les groupes vont être plus ou moins importants. Mais quand on a un individu qui est bien habitué comme ça, elle va transmettre sa confiance aux autres, va les calmer, et donc, Coutou a joué un grand rôle à Sibitoli.
Donc merci Coutou, et vous nous avez parlé aussi de ces différentes approches dans les différents groupes, de ces différentes manières de faire la cour chez les chimpanzés.
Oui, alors là ce qu'on a découvert à Sibitoli, où on travaille donc depuis seulement 6 ans, à côté juste à quelques dizaines, à 10 kilomètres en fait, hein, j'ai travaillé là-bas pendant 10 ans, les chimpanzés pour faire la cour avaient plutôt tendance à se mettre debout, à se montrer en érection, donc les mâles, à mimer des gestes de copulation pour attirer les femelles, alors qu'à Sibitoli, en fait, c'est beaucoup plus subtil. Ils cueillent des feuilles qui vont déchiqueter avec leur bouche et les recracher lentement, faire des petits confettis. Et ça, bah, généralement, ça charme les femelles qui vont arriver et s'approcher donc des mâles qui manifestent ainsi leur envie d'accouplement.
On en revient à la culture, hein, la culture des chimpanzés. Serge Bahut, c'est vous avez travaillé, non pas sur les chimpanzés, mais sur les hommes et sur les pygmées qui vivent en Afrique. Pas du côté de l'Ouganda, en Afrique centrale,
oui.
Avec également des grands sages. Quels sont leurs rapports à eux avec ces
Alors, on est dans un contexte écologique totalement différent d'Ouganda. C'est-à-dire que la partie où j'ai travaillé, qui est l'ouest du bassin congolais, c'est un massif forestier quasiment continu, avec une densité de population extrêmement faible. En Ouganda, on est à 300 habitants au kilomètre carré. En Afrique centrale, on est à 1 à 2 habitants au kilomètre carré.
Ah oui, donc
il y a des immensités de forêts où il n'y a pas d'hommes, sauf des chasseurs-cueilleurs itinérants d'une manière saisonnière. Et puis, de place en place, des agriculteurs qui ont créé une clairière pour faire leurs champs. Et le reste de l'espace est quasi vide d'activité humaine. Donc, les occasions de contact, de rencontre entre les hommes, qu'ils soient chasseurs-cueilleurs ou qu'ils soient agriculteurs, sont relativement réduites. Alors évidemment, il y a quand même des contacts qui se passent quand les champs sont très prospères. À ce moment-là, il y a des gorilles ou des chimpanzés qui viennent se nourrir dedans.
Parce que ça ne doit pas plaire, ça doit pas plaire à ceux qui détiennent les champs,
vraiment,
évidemment,
non.
Bien sûr.
J'ai vu, quand j'ai travaillé au Cameroun, les paysans m'ont emmené un matin voir le champ. Les champs étaient dévastés, en fait. C'était des champs de bananiers. Et la moelle de bananier, c'est très tendre. Les gorilles adorent ça. Donc, 3 gorilles dans un champ de bananier, ça détruit tout en une nuit. Et les paysans étaient absolument désolés, quoi. Donc, dans ce cas-là, évidemment, s'ils en rencontrent l'un de ces animaux-là, s'ils le rencontrent, il fait pas long feu.
Et oui, mais... et justement, du coup, quand on parle de préservation, évidemment, puisqu'on comprend bien le rôle et l'importance de maintenir ces grands singes dans leur environnement, comment est-ce qu'on fait face aux populations qui vivent avec? C'est pas la même manière de les sensibiliser.
Non, mais... Disons que le problème de la faune vis-à-vis des champs des agriculteurs, dépasse très largement le problème des grands singes. Et le plus gros ennui qui se prête aux hommes dans ces régions d'Afrique centrale de l'Ouest, c'est les éléphants, qui eux aussi sont très efficaces à détruire les champs. Donc il y a constamment des plaintes des agriculteurs contre les autorités de conservation de la nature, les parcs nationaux et tout ça, à cause du fait que les animaux viennent dévaster les champs et que les populations ne sont pas compensées de ça, donc elles se plaignent. Elles n'ont pas non plus le droit de tuer les animaux. Si un agriculteur tue un éléphant, il est sûr d'aller en prison. Donc il y a des conflits à cause de ça.
Il faut penser ça ensemble, oui. Hommes et animaux ensemble.
Et trouver des solutions pour que les animaux ne viennent pas empiéter sur le territoire des hommes. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour ça, enfin de moyens techniques, on ne sait pas très bien le faire. J'ai le souvenir d'une année, on avait fait un colloque sur la conservation et sur les hommes au Cameroun, et on avait fait venir un chef de village du sud Cameroun, et c'était organisé par une organisation qui s'occupe de parcs nationaux, et le monsieur s'était adressé à la salle et en disant bon, les parcs nationaux c'est bien, mais occupez-vous de vos animaux, reprenez
vos animaux, oui. Et oui, comme quoi il faut vraiment, ouais, réfléchir ensemble à cette question, parce qu'elle ne peut pas se faire séparément, de la même manière que établir une frontière comme ça entre hommes et animaux, entre hommes et grands singes est compliqué. On peut pas établir de frontière du tout.
On s'efforce, donc
y réfléchir.
Pour les éléphants, les collègues qui s'occupent de ça essayent d'utiliser des piments, par exemple, de faire des fumées de piments ou de mettre des abeilles
pour les repousser.
De faire en Ouganda, de creuser des fossés pour empêcher les animaux de pénétrer dans les champs. C'est très compliqué.
Allez, on s'arrête si vous voulez bien à la lisière de la forêt du bassin du Congo avec Relema, Freddy Massamba et Balou Kanta sur RFI, extrait de leur dernier album Dimbou qui mêle tous les rythmes congolais et même la flûte pygmée.
Chilombo jata Meso mani mamweni Mina mina ke chilombo mona Moko mani mashimbi Mina mina ke chilombo shimba Meni twani imweni Mina mina ke chilombo mona Wow 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 Utoto ncho Walelewe Kanda mabantu choma mingime Sambu vya bantu chobya mingite Akanda manza icho mamingine
Mungu ntoto ncho
Wanelewe
Akanda mabantu cho mamingine
Isambu vya bantu cho vya bingipe Akanda manza icho mamingine Jeribanza munzai Nimeno kaka kwa natekela Jeribanza zai Musanguru Nabi sangulu kwa Jeri banza chizuri nizonza Nijoje kwa konsono Jeri banza chimepa nje mkuntu Chomunza iba bingibe Wo 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 wo
Utoto ncho
Walelewe
Akanda mabantu choma mingime Sambu vya bantu
Chubya bingibe Akanda manza ichoma mingime
Mungu utoto ncho
Walelewe
Ama kanda mabantu
choma mingine
Sambu vya bantu
Choma mingine Makanda manza ichoma mingine
Dimbou, extrait du dernier album de Relema sur RFI, Relema avec Freddy Massamba et Balou Kanta. Relema que vous connaissez, Serge Belchef.
Non, mais nous avons collaboré sur un CD-ROM consacré aux pygmées il y a quelques années. Et Relema avait nous a fait l'amitié de lire les textes que nous avions écrits.
Autour de la question, pourquoi partir sur la piste des grands singes pour mieux les connaître, pour mieux les comprendre, nous comprendre aussi peut-être, c'est tout le sens de la question qu'a souhaité vous soumettre le neurologue Stephen Lawrence, qui était récemment notre invité et qui travaille lui sur le cerveau humain et les états limites de conscience.
La parle pas le même langage, et donc qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a comme émotion. Historiquement, je pense, on a sous-estimé leur capacité cognitive, et donc j'aimerais bien leur poser la question, ben, comment essayer de mieux interpréter leur comportement en termes justement de capacité intellectuelle, de conscience de l'environnement, mais aussi d'eux-mêmes.
Sabrina Krief, que pouvez-vous répondre?
Alors, nous, dans le cadre de nos travaux, on essaye justement de comprendre quelle est la conscience de cet environnement via le risque induit par la proximité avec l'homme. Donc, dans une première étude, on s'est rendu compte, en posant des pièges à détection de présence, que les chimpanzés étaient capables de modifier leur activité. Ils sont décrits comme uniquement diurnes. Et donc, quand il y a des villageois qui gardent leur pré à la lisière, ils les gardent surtout la journée. Et la nuit, ils sont là, mais ils sont réveillés par les éléphants. Donc, c'est vraiment l'éléphant, comme le décrivait Serge, qui génère la réaction du villageois. Et donc les chimpanzés, en fait, ont été observés sur ces images en train d'aller piller en pleine nuit. Donc après...
Donc changer leur rythme et aller en pleine nuit, voilà. Parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas de surveillance ou de piège à ce moment-là.
Exactement. Donc sur les images de jour, on les voit stressés, se mettre en bipédie, monter le guet, aller dans des eucalyptus. Et pendant la nuit, ils sont beaucoup plus décontractés. A priori, ils mangent les épis de maïs dans le pré. Donc évidemment, ça fait partie, bien sûr, des questions qu'il va falloir résoudre justement pour essayer d'améliorer le conflit. Mais ça nous montre que les chimpanzés ont une perception très fine et sont capables de s'adapter assez rapidement à des contraintes qui sont posées sur leur environnement. Une autre étude porte sur la route nationale qui traverse le parc et où là aussi on essaye de voir comment les individus mutilés par les pièges qui sont posés dans la forêt donc et qui ont par exemple un bras en moins ou un pied en moins sont pris en charge par le groupe. Et ça nous intéresse beaucoup de voir s'il y a une empathie et une prise en charge sociale, ou bien s'il y a une complète indifférence et que finalement, c'est chaque individu pour soi et puis bah, il se débrouille. Donc pour l'instant, on est en train d'explorer la question, on n'a pas forcément de réponse, mais il semble vraiment que le mâle dominant, en tout cas, prenne en charge les petits groupes qui vont traverser avec lui, attendre les plus faibles, les individus, les jeunes, les orphelins. On a pas mal d'orphelins dans notre communauté et les mâles sont vraiment dans l'attente de ces individus. Ils vont pas partir à toute vitesse en les laissant là, ils vont attendre que les plus petits les suivent avant de se décider à changer d'arme.
Donc empathie chez les chimpanzés, on découvre dans l'exposition au Muséum national d'histoire naturelle sur la piste des grands singes, d'étonnants comportements. Vous allez même montrer, dites-moi si je me trompe, les peintures des orang-outans de la ménagerie du musée du jardin des plantes.
Oui, on va exposer dans quelques jours, on aura les peintures de Nénette principalement.
Ah,
donc
Nénette,
la fameuse orang-outan de la ménagerie. En fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans le cadre de la recherche aussi, hein, puisqu'on essaye de détecter par différentes méthodes un indicateur de stress, d'anxiété, qui est le cortisol, pour pouvoir adapter ça au milieu naturel. Et donc Nénette nous aide. On récupère sa salive avant les séances de dessin, après les séances de dessin.
Pour voir si ça lui a fait du bien, si
voilà,
ça l'a calmé.
Exactement. Mm-hmm. Et donc on
et
a
alors,
eu
ça lui
la
fait du bien,
de,
Nénette
de, bah, a priori, les niveaux de cortisol diminuent, mais surtout, on est très heureux d'avoir découvert que, bah oui, elle peignait, c'était la première fois qu'elle avait de la peinture.
Elle dessine, Nénette, l'orang-outan de la ménagerie, dessine, et qu'est-ce qu'elle dessine?
Bah, elle qu'est-ce dessine, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle utilise les quatre couleurs qu'on lui propose, le bleu, le vert, le rouge et le jaune, pour finalement nous offrir un dessin qui est assez similaire à ce qu'elle aurait dans son environnement naturel et qu'elle a dans son enclos. Okay. Donc des tons qui sont dans les beiges, verts, etc. Donc on n'a pas encore découvert si elle dessinait vraiment quelque chose.
Donc les orang-outans un peu orange, ils dessinent dans les verts bruns.
Exactement. Mais en tout cas, ça l'occupe quand on lui fait une session d'une demi-heure de dessin. Pendant la demi-heure, elle est passionnée et elle utilise la peinture.
Ça fait partie de tout ce qu'on peut découvrir dans cette exposition au Muséum national d'histoire naturelle qui a démarré, qui vient tout juste de démarrer. C'est une exposition dans laquelle vous voulez aussi nous alerter, nous, qui vivons en Occident, loin de la forêt, loin des grands singes, sur ce qu'on peut faire pour tenter, nous, à notre manière, de les préserver.
Voilà, parce qu'en fait, ces six espèces de grands singes vivent uniquement en forêt tropicale. Cette forêt disparaît à toute vitesse, donc il n'y a pas que l'histoire du braconnage ou des maladies, mais la disparition de la forêt tropicale. Et cette forêt tropicale, on peut la préserver, on peut essayer de limiter notre empreinte par des gestes de la vie de tous les jours, en faisant attention à ce qu'on consomme, en recyclant, en réparant, plutôt qu'en consommant vraiment à toute vitesse, à la fois, par exemple, tout ce qui est issu de bois tropical, le papier, le parquet, les salons de jardin, mais aussi les téléphones portables, les tablettes, voilà, les ordinateurs.
À nous d'être vigilants,
voilà,
sur
dans lesquels on trouve du coltan, hein, et qui est extrait de assez peu de pays, c'est des terres très rares, en République démocratique du Congo, où les gorilles pâtissent de cette exploitation très fortement.
Comme quoi tout est lié. Hein.
Voilà, et puis bah, bien sûr, tous les produits à base d'huile de palme ou de dérivés d'huile de palme. Et puis, bah, on peut aussi nous aider vraiment sur le terrain, puisqu'on va mettre en place des patrouilles anti-braconnage. Donc, pendant le week-end de Pâques, le muséum va reverser les entrées de l'exposition à ce projet de lutte anti-braconnage, et les visiteurs peuvent aussi nous faire des dons pour qu'on puisse vraiment développer cette action en lien avec de la sensibilisation et le travail avec les communautés locales sur le site.
Merci infiniment Sabrina Krief et Serge Mahuchet d'être venus en direct nous faire partager toutes ces pistes de connaissances, toutes ces interrogations aussi sur les grands singes. Je rappelle donc que l'exposition sur la piste des grands singes, c'est à voir et à vivre. Il y a plein d'animations, des conférences également au Jardin des Plantes, au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est à Paris toute cette année 2015 et jusqu'en mars 2016 à bon entendeur. Merci.
Merci. Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro, amis auditeurs. Sophie qui me remplacera pendant mes vacances la semaine prochaine avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, portez bien. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine suivante et pour continuer évidemment de nous interroger ensemble. Merci de votre fidélité, merci de votre curiosité. Dans quelques instants, l'heure d'un nouveau journal sur RFI.